France Inter.
Aujourd'hui, le pari de la biodiversité, raconté par
Marc-André Solos, professeur du Muséum national d'histoire naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tout commence dans les couloirs feutrés de la science américaine en 1985. Le biologiste Walter G. Rosen forge discrètement un néologisme pour préparer un colloque Biodiversity. L'année suivante, à Washington, le National Forum on Biodiversity réunit les grandes voix de la biologie. Parmi elles, Edward Wilson, naturaliste de renom, qui comprend que ce mot neuf peut porter quelque chose d'urgent. Il édite les actes du colloque en 1988 sous le titre Biodiversity, avec cette majuscule au milieu sur le D, comme un drapeau planté dans le paysage scientifique. En contractant l'expression diversité biologique en un seul mot percutant, les biologistes espèrent attirer l'attention sur leur discipline et sur l'importance de connaître les espèces du monde. Et puis en 1992, le sommet de la Terre de Rio change d'échelle. La Convention sur la diversité biologique est adoptée par les nations. Le mot sort des revues spécialisées pour entrer dans le droit international. Biodiversité sans majuscule désormais commence sa grande traversée vers le public. Mais elle prend du temps cette traversée. Pendant des années, le mot reste confiné au cercle des écologues et des militants environnementaux. Le vivant, dans sa complexité invisible, résiste à la simplification médiatique. Ce sont les crises qui vont imposer ce terme de biodiversité. Le déclin brutal des insectes, les rapports alarmants sur les extinctions de masse, la pandémie de 2020 qui relie brutalement la santé humaine à l'état des écosystèmes. Soudain, biodiversité devient un mot que tout le monde entend. En 2025, un sondage de l'Office français justement de la biodiversité révèle que 99% des Français connaissent le terme. Mais si le mot a gagné la société, reste à gagner les consciences. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
La biodiversité, c'est un terme que nous avons introduit en 1988 et qui désigne la totalité des variations génétiques que l'on trouve chez les organismes vivants. Là où nous sommes assis, il y a de la biodiversité, que ce soit ici au parc de Yosemite en Californie ou partout dans le monde. Beaucoup de gens sont surpris par l'immense biodiversité qui existe sur Terre. Ils sont ensuite encore plus surpris d'apprendre à quelle vitesse elle disparaît, anéantie par l'activité humaine au point qu'il ne restera peut-être que la moitié des espèces vivantes et en bonne santé d'ici la fin du siècle.
La voix du biologiste Edward O. Wilson, traduit par Jérôme Boulet, document de la chaîne américaine Explore Nature, c'est la chaîne des parcs nationaux aux États-Unis. Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, vous qui publiez et qui avez publié il y a quelques semaines un petit essai intitulé « De la biodiversité comme un humanisme ». C'est publié au Seuil et vous dédiez ce livre à votre fils. Vous écrivez « Mon fils, je n'écris ces lignes en te volant des heures de compagnie que pour toi ». Quel âge a-t-il ?
Il a 5 ans et demi.
Est-ce que lorsqu'il sera adulte, le monde vivant sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui ?
On est quelques-uns à se battre pour que pas trop. Et surtout que les possibilités de vivre, de produire l'alimentation, d'avoir une eau saine, de l'air sain, un cadre de vie agréable. J'insiste dans le livre sur le fait que la verdure, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, parce qu'on est un peu sélectionné pour vivre là-dedans. On est quelques-uns à se battre pour ça, pour gagner les consciences, mais en fait aussi les cœurs, parce que moi, la biodiversité, elle peut s'écrouler, maintenant, je m'en fous. Hein.
Ah bon ?
L'essentiel est passé. À mon âge, c'est pas pour quelques années ratées de vie finale que j'aurais pas profondément joui du monde.
Ça va le moral, Marc-André Sellos ?
C'est pour nos enfants. Et donc, gagner les consciences, oui, mais gagner les cœurs, parce que quelque part, si on comprend bien que l'humanité est cousue de biodiversité, c'est la couture de nos enfants que nous sauvons.
Alors justement, vous dites, vous l'écrivez effectivement, que l'humain est à 100% cousu de biodiversité. Il faut l'entendre comment, ce terme ?
Je sais pas, genre, déjà je peux vous montrer mon costume, qui est un témoignage de mouton, ma cravate, témoignage de verre à soie, ma chemise c'est du coton aussi, j'ai du bœuf là à la ceinture, on a aussi tout ce microbiote en nous qui sous-tend toutes nos fonctions de santé. En réalité, je veux dire que c'est notre trame, on est inséré dans le vivant. C'est prolonger le programme qu'un des Scola, par exemple, nous propose en disant « Nature et société, c'est la même chose ». C'est vraiment se dire que on est fabriqué par cette biodiversité, alors on s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte quand elle disparaît. Par exemple, la dégradation de la biodiversité de nos microbiotes est une des portes d'entrée vers les grandes maladies modernes. Asthme, allergie, obésité, etc. C'est pas la seule, hein. Mais en particulier, c'est l'endroit où la dégradation de la biodiversité nous affecte le plus directement. On voit aussi une agriculture, par exemple en France, qui commence à ne plus faire les gains de productivité qu'elle faisait, alors même que les variétés s'améliorent, que les intrants s'améliorent, qu'on les aime ou non, ils sont de plus en plus performants, mais la productivité piétine, et ce n'est pas qu'une histoire de climat, c'est que la biodiversité des sols s'effondrant, les fonctions de fertilité, de rétention de l'eau des sols s'écroulent. Donc, on est cousu de biodiversité parce que nous avons, dans notre évolution, été construits dans un monde où il y avait une certaine diversité et nous reposons sur elle. Et on commence à s'en apercevoir parce que son érosion commence à abîmer des fonctions vitales. Pas au point qu'on en meure, mais au point qu'on en vive moins bien.
Et vous êtes inquiet pour la génération de votre fils, justement ?
Oui et non. Moi, je suis un humaniste. Hein. Ce titre, c'est pas une imposture. Je crois en l'humain. J'y crois profondément. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pères d'abrutis qui essaient tous les jours de vous démontrer qu'il y a aussi des doutes sur l'humanisme. Mais moi, si je me bats, ce n'est pas juste pour vendre des livres. Hein. Bon, je crois qu'il y a une possibilité. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr de l'issue et je pense qu'il faut tous qu'on se motive et qu'on opère notre jonction. Parce que moi je sors d'un repas avec des gens d'Air France, là. Ah, hein. Et bien, c'est des gens qui sont à la responsabilité sociale et environnementale. Et ils se posent des questions, et ils essaient de faire évoluer le schéma, c'est pas évident. Il y a des gens solutions partout. J'ai croisé des juristes, notamment, qui s'occupent de droit à l'environnement. Je croise des médecins qui nous parlent justement de ce concept « one health », une seule santé. Pas de santé sans un environnement qui fonctionne bien. Je croise des économistes aussi. Mon collègue Harold Levrel du Muséum, qui est professeur d'économie, mais qui parle d'encastrer l'économie dans le vivant. Dans tous les secteurs, il y a des gens qui bougent. Ils ont pas vraiment opéré leur jonction. Alors que les conservateurs et les négationnistes de la crise de la biodiversité, eux, souvent ont opéré leur jonction technique. Mais moi, je vois des gens qui bougent partout.
Ouais, mais quel est l'intérêt d'aller faire un repas avec des gens d'Air France alors ? Parce que vous croyez vraiment que l'aviation va se poser la question de remettre en question justement le rôle aussi des émissions de gaz à effet de serre dans ce domaine-là précisément ?
Avec les SCAF, hein, les carburants d'origine biologique d'une part, et la compensation carbone, elle se pose la question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut voler autant que ça, d'accord ? Mais à un moment, il y a des gens qui se posent des questions à l'intérieur de ce dispositif. Et s'ils ont des questions à poser à un professeur du muséum, je ne vois pas pourquoi professeur du muséum refuserait de parler à certains.
Sauf que la compensation carbone proposée par exemple par Air France, c'est de planter des arbres. Or, on sait bien que ce n'est pas ça la solution du tout, que ça ne fonctionne pas.
La solution, c'est justement sur l'idée de ne pas planter des arbres, mais faire des forêts. Et peut-être des forêts qui seraient des réserves. Oui, parce que, en parlant de biodiversité, on dit qu'il faudrait mettre à peu près 30% du territoire, mer et terre comprises, en réserve, pour avoir des zones où les espèces qui étaient présentes avant peuvent continuer à exister sans rajouter des pressions de sélection qui les éliminent. On peut peut-être un jour faire de la compensation carbone en non pas plantant des plantations, car on ne plante pas des forêts, on plante des plantations, mais en mettant des forêts en libre évolution. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout pour griller du carburant en avion, mais ce que je veux dire, et c'est important, c'est qu'il y a partout des gens qui peuvent faire mieux et d'une façon qui, par exemple, relie les problématiques climatiques et de biodiversité. Et il faut aller au-devant de ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des habitudes qu'il va falloir qu'on change tous. Ouais. Et ça, c'est le problème. C'est qu'il y a aussi, il n'y a pas que des possibles, il y a aussi quelques interdits.
Il y a aussi beaucoup de greenwashing, quand même, Marc-André Sellos, non ? Même chez ceux qui, ont de bonnes intentions, non ?
J'étais pas programmé que je parle d'Air France aujourd'hui.
Non, mais cette entreprise ou une autre, d'ailleurs.
Là, c'est plutôt une démarche interne. Mais le greenwashing existe. Mais attention, de grâce, à ne pas écrabouiller les efforts déjà difficiles que font certains pour faire mieux en traitant n'importe quoi de greenwashing. Sachons être un tout petit peu nuancé. Hein,
Donc vous êtes pour le dialogue avec tout le monde ? C'est ce que vous nous dites aussi ?
Moi, professeur au muséum, quand un citoyen de ce pays m'interpelle, je dois lui répondre, quel que soit son parti, quel que soit son métier, tant qu'il me parle poliment. Ce qui des fois, effectivement, commence à être difficile, mais bon, c'est une autre histoire.
Vous dites, nous sommes insérés justement dans la biodiversité, et vous donnez dans votre livre une place centrale à l'humain, puisque justement, vous l'écrivez, oui. La biodiversité comme un humanisme, alors que nous sommes précisément une espèce parmi tant d'autres.
Ah, oui.
Donc, comment il faut l'entendre ça également? On a une place particulière, selon vous, ou on se fond? On est inséré, comme vous le dites aussi.
On n'a pas une place particulière. Une des preuves de ça, c'est que, par exemple, sur les pesticides, on voit bien qu'on fait partie des espèces qui en souffrent. Même si, peut-être, on en souffre un peu moins qu'un puceron ou un champignon parasite, on sait très bien les effets délétères que certains pesticides ont sur la santé. Bon. Donc, on est dans la biodiversité nous-mêmes. Et d'ailleurs, souvent, on me reproche d'avoir un côté utilitariste et de dire la biodiversité, elle sert à construire l'humain. Mais vous savez, quand un oiseau fait son nid, il arrache une mousse, il prend de la paille, il pique du crin, il fait son nid, il ne le recycle même pas d'ailleurs. Quand il a fini de s'en servir, il le laisse comme ça. Consommer, exploiter les ressources, c'est vivre. Le point par lequel nous sommes singuliers, c'est que nous avons une capacité d'anticipation. Et nous avons une force, et j'en reviens aux générations futures, nous avons une force qui est de pouvoir prévoir et de faire en sorte que non seulement nous utilisions, mais nous puissions faire en sorte que ceux qui nous sont chers continuent à utiliser. Notre point particulier, c'est la capacité d'anticipation. Le fait de consommer la biodiversité, toutes les espèces vivantes consomment d'autres espèces, consomment des ressources et des services produits par d'autres espèces. C'est reconnaître que l'homme est naturel que de dire on va utiliser la biodiversité. Simplement, il faut que ce soit durable. Et on sait faire. Le livre, en agriculture, en urbanisme, en paysage, en santé, propose des pistes.
On va y revenir, évidemment, avec vous. Vous distinguez, Marc-André Sellos, la biodiversité d'un autre concept que l'on utiliserait régulièrement, celui des écosystèmes. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux ou pas?
Alors, la biodiversité, c'est toute la diversité du vivant. C'est donc la diversité des espèces, bien sûr, mais c'est aussi la diversité génétique qu'il y a dans ces espèces, et c'est elle qui s'écroule beaucoup en ce moment avec la réduction des populations. Quand on vous dit que vous avez perdu 80% des insectes en 30 ans, ben c'est 80% de la biodiversité qui s'est effondrée, parce qu'il y a moins d'individus, donc moins de diversité génétique. Il y a aussi la diversité des écosystèmes, qui sont des assemblages d'espèces. Et par exemple, la France, elle vend ses paysages pour faire du tourisme, ben c'est de la biodiversité qu'elle vend, c'est du patrimoine. C'est même une fierté nationale, la richesse des paysages français. C'est de la biodiversité aussi. La biodiversité, c'est à toutes les échelles, la diversité du vivant, et il ne faut pas bien sûr n'y voir que les espèces, même si les espèces en sont une fraction.
Et donc les écosystèmes, pour bien comprendre de quoi on parle.
Ils sont une partie de la biodiversité.
C'est ça.
Et c'est la partie de la biodiversité qui produit ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire que les assemblages d'espèces qui sont là à un moment font des choses. Ils font de l'oxygène, ils font de la porosité dans le sol qui va retenir l'eau de pluie, ou ils purifient l'eau de pluie. Et ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est un autre aspect de la biodiversité, c'est la diversité des actions du vivant. En fait, quand on est cousu de biodiversité, nous, c'est parce qu'on recueille les actions du vivant, la production de nourriture, la rétention d'eau, la production d'oxygène, etc., etc.
On parle souvent de la biodiversité que nous voyons, la biodiversité visible, les animaux, les plantes, mais il faut également insister sur un monde qui vous est particulièrement cher, c'est celui des microbes, Marc-André Sellos,
oui.
Parce que c'est un monde invisible, mais très important aussi.
Oui, il est très important. On a fait ensemble, je crois, une émission une fois sur les sols, alors il faut la réécouter pour voir cette espèce de bombe de diversité. Un gramme de sol, plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, une cuillère à café d'eau marine, c'est 10 000 cellules d'algues appartenant à plusieurs centaines d'espèces, probablement un bon millier d'espèces de bactéries. En fait, pour 500 000 d'espèces de plantes et 3 à 6 millions selon les estimations d'espèces animales, vous avez 6 à 10 millions d'espèces de champignons, probablement au moins une centaine de millions d'espèces de bactéries. Puis alors, il y a les virus, complètement inconnus, mais qui prolongent ce chiffre par milliards d'espèces. En fait, la diversité microbienne, et ça c'est une bonne nouvelle, vous savez pourquoi? Parce que les populations microbiennes sont tellement énormes. C'est tout petit des microbes, donc on en met vraiment plein. C'est pour ça que dans un gramme de terre, il y a autant de vie. Que là, l'érosion de la diversité génétique n'a pas commencé et l'extinction est encore rare. Alors, elle n'est pas complètement absente, parce que quand vous perdez le mammouth, vous perdez toutes les bactéries pathogènes, toutes les bactéries qui vivent dans le tube digestif du mammouth seulement. Donc, il y a déjà des espèces de microbes qui ont disparu. Mais aujourd'hui, il y a peu d'espèces de microbes qui ont disparu et surtout, leurs populations sont tellement énormes que là, l'érosion de la diversité génétique est encore relativement limitée. Vous savez, le verre est à moitié plein. On a perdu au plus 5 à 7% des espèces vivantes selon les groupes. Cette espèce, 7%, c'est les mollusques, par exemple. C'est pas beaucoup encore. Et on a perdu beaucoup de biodiversité, hein, ça, génétique, ça c'est sûr. On pense que, enfin, il n'y a pas une espèce qu'on a étudiée où il n'y a pas de diversité génétique qui a disparu. Mais il en reste. Tout est encore possible. Le verre est à moitié plein encore.
Il en reste, mais ça s'effondre quand même un petit peu. On va en reparler avec vous dans un instant. Marc-André Sellos, puisqu'on marche un peu sur un fil quand même, autour de ce concept de biodiversité. On en discute ensemble avec les auditrices et les auditeurs. Bien sûr, vous nous rejoignez avec vos questions sur la page de l'émission, nos réseaux sociaux, et même pour vous entendre sur l'application Radio France.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Pour l'instant, il n'y a pas tant d'espèces qui ont vraiment disparu que ça. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les populations, l'abondance des populations est en train de s'effondrer. Si on compare à la dernière extinction de masse, où 70% des espèces sur Terre avaient disparu, bah, le taux d'extinction, la vitesse d'extinction actuelle, par exemple des batraciens, des grenouilles, etc., elle est près de 150 fois plus rapide. On estime que la diversité en espèces qui va disparaître dans les 5 prochaines décennies chez les mammifères, il faudrait 5 à 10 millions d'années pour qu'elle se régénère.
La directrice de recherche du CNRS, Tatiana Giraud, dans une vidéo du Figaro. C'était en février 2024. Marc-André Sellos, vous qui publiez Au seuil de la biodiversité comme un humanisme. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de cette 6e extinction. Vous proposez une lecture un peu différente justement, moins catastrophiste sur la biodiversité elle-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Y a-t-il ou pas d'ailleurs de 6e extinction aujourd'hui ?
Je suis surtout pas en train de dire que tout va bien. Tatiana le dit, non seulement cette extinction, elle a augmenté, les estimations varient de 100 à 500 fois par rapport, le taux d'extinction des espèces a augmenté de 100 à 500 fois par rapport à ce qui était avant l'homme, mais surtout, il est 100 à 1000 fois plus rapide qu'il ne l'a été dans les précédentes extinctions.
C'est ce qu'elle
Et Tatiana
disait,
le dit très bien. Ça revient. Je veux dire, quand les tyrannosaures ont disparu, il y a eu de nouveaux grands carnivores comme les lions qui sont apparus. Donc, à l'échelle du vivant, il n'y a pas trop de problèmes. La biodiversité, elle va survivre. C'est un processus qui ne nous appartient pas d'éteindre. Ou alors, il faut vraiment réduire le globe en cendres, en poussière. Par contre, effectivement, il y a une inquiétude parce que tout ce qu'on a perdu, on l'a perdu irrémédiablement à l'ordre de grandeur des générations humaines. Et c'est vrai que c'est une extinction qui n'est pas la première, mais qui a pour caractéristique sa grande rapidité. Et c'est pour ça qu'il faut agir vite. Donc, à la fois, moi, je suis positif en disant il est encore temps d'agir. En même temps, chaque minute qui passe et on n'agit pas m'inquiète, parce qu'on part de plus loin.
Mais juste petite parenthèse,
et on va plus bas.
Ce terme de 6e extinction, vous êtes d'accord avec le fait de l'employer aujourd'hui ou pas? Parce qu'il est discuté, hein, même en biologie.
Ouais, mais bon, disons que... Alors, effectivement, quand on regarde, il y a une extinction au Permien où disparaissent 95% des espèces vivant sur les continents. Effectivement, on est loin de ça. Il y a toujours eu des soubresauts, et ce soubresaut-là, il est bien parti, s'il continue à cette vitesse-là, pour être une très grosse extinction. Mais ces extinctions ne sont pas des crises, en fait. Au sens où une crise, c'est quelque chose qui peut enrayer un processus. Or, la biodiversité, il y a un processus génératif, je ne sais pas si on en reparlera, mais c'est le processus de l'évolution. La mutation, le fait que quand vous faites des descendants, vous recombinez les gènes, et regardez vos enfants, ils ne sont pas comme vous, hein. Pourtant, ils vous ressemblent un peu, mais il y a toujours de la nouveauté au moment de la reproduction. Et puis, il y a aussi, dans beaucoup de groupes, mais même d'ailleurs dans des groupes animaux et végétaux, même si c'est plus rare, mais surtout dans les groupes microbiens, les transferts de gènes qui amènent des propriétés d'une espèce dans une autre. Donc, il y a un générateur de diversité qui fait qu'à un moment, il peut y avoir ce qu'on appelle des radiations évolutives. Et sur plusieurs dizaines de millions d'années, vous pouvez recréer la diversité que vous avez perdue. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes le produit de la radiation évolutive qui a suivi une extinction qui a rayé de la carte les dinosaures. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour la biodiversité, mais à échelle humaine, je suis inquiet de notre capacité à faire sans. Moi, je veux bien qu'on monte des drones pour polliniser. Mais déjà, c'est plus cher que de laisser faire les insectes gratuitement. Okay. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'on sache, en fait, contrairement à une idée reçue, parce que ça, dans des cours que je donne en école de commerce, j'ai découvert qu'il y avait des gamins qui croyaient que c'était vrai, on n'a pas encore de drones pollinisateurs, c'est une possibilité intellectuelle, mais on ne sait pas faire. Et pour beaucoup de gens, on sait faire, éventuellement déjà. Donc moi, je suis plutôt inquiet pour la perte de diversité fonctionnelle, et si crise il y a, c'est une crise de l'humanité. Et en ce sens, c'est encore un moment où, à séparer société et nature, on a exporté le problème dans le compartiment naturel. On ne s'aperçoit pas qu'en fait, c'est notre problème.
Donc ce terme de crise de biodiversité, là aussi, il est à discuter.
On peut continuer à parler de crise. Il faut bien comprendre que le côté le plus critique de ce qui arrive, c'est pour nous.
Donc notre génération ?
Pour nous, humains.
Oui.
notre génération... Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Mathieu, mais ça va, hein, c'est fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie question, c'est les générations qui arrivent. Qu'est-ce qu'elles vont avoir en main ? Et c'est vraiment une question de transmission. Et d'ailleurs, j'aimerais ici faire une parenthèse. Je ne comprends pas pourquoi l'écologie est de gauche et pas de droite. Parce que la biodiversité, c'est le patrimoine naturel qui est le résultat de l'évolution. C'est du patrimoine, exactement comme le patrimoine linguistique, architectural et le produit de l'évolution culturelle. Si on est fier de son pays, si on est fier de ce qu'on a, si on est fier de son histoire, on doit notamment être fier de son patrimoine. Et là, on est enfoncé dans une ornière politique qui, moi, me pose beaucoup de problèmes.
Vous dites, je ne sais pas pourquoi, vous êtes vraiment sûr, vous n'avez pas des éléments de réponse là-dessus ?
Je sais que moi, j'ai rencontré des élus de droite qui sont résolument engagés en écologie. Hein. Et le hiatus est plutôt un hiatus où on s'est fourvoyé sociétalement. C'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation de l'écologie par la gauche, qui l'a incarnée avec plus ou moins de spontanéité et d'exactitude, mais qui quand même fait des efforts. Et puis du coup, c'était pas à droite. Et mais voilà, je pense que ça c'est une ornière historique. Alors il y a effectivement des hiatus avec des systèmes de production, des systèmes de pensée économique et qui font qu'effectivement certains systèmes de pensée voient les régulations écologiques comme des régulations et on veut déréguler. Bon, mais quand même à la base, je trouve que c'est dingue qu'il y ait une partie du patrimoine qui est le patrimoine culturel et la préservation de l'héritage qui soit approprié par certains partis et le patrimoine naturel qui soit approprié par d'autres partis, alors que tout ça, c'est nous.
Enfin, c'est plus qu'un patrimoine, Marc-André Sellos, c'est tout simplement notre raison de vivre.
Alors ça, c'est l'autre chose.
C'est-à-dire que sans ça, on ne vit pas en réalité, on vit moins bien.
C'est moins notre raison de vivre que la raison pour laquelle nous vivons, effectivement. Et vous pouvez démolir Versailles, on peut refaire un truc qui ressemble. Démolissez les mammouths, vous ne refaites pas quelque chose qui ressemble. Et alors j'aimerais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désextinction. Mais c'est quoi ? En fait, la désextinction du mammouth, c'est de faire un éléphant à poil roux.
C'est la résurrection d'espèces disparues, en fait. Ouais. C'est ça, le projet.
Alors, c'est un projet qui va rapporter de l'argent, parce que quand on aura un mammouth un éléphant à poil roux à montrer, les gens vont se précipiter là-dessus. Mais attendez, une espèce, c'est pas juste un ou deux individus. Si vous faites un mâle à une femelle, au bout de quelques générations, ça va être complètement consanguin, ça va être l'horreur. Ce sont des populations, c'est de la diversité génétique. L'espèce est une capsule de biodiversité génétique, elle n'existe pas sans ça. Sinon, elle dégénère, ne fût-ce que par consanguinité. Donc, déséteindre, c'est faire une population, et après, votre population, vous en faites quoi ? Vous la mettez où ? Il n'y a plus la place. Donc, ces histoires de désextinction, que des boîtes incarnent, c'est des projets industriels intéressant, sympathique, mais c'est pas du tout des remèdes. L'extinction, c'est définitif. Et l'espèce qui occupera la niche écologique et qui remplira les fonctions, elle n'est pas pour demain, et elle sera sans doute différente. Aussi différente que le lion l'est du tyrannosaure.
Mais Marc-André Sellos, c'est encore une question vitale, finalement. Toutes les questions de biodiversité, celles des ressources, comme l'eau, par exemple, aujourd'hui, c'est quand même un sacré sujet. L'eau, c'est pas de gauche ou c'est pas de droite. L'eau, ça nous concerne tous. Et sans eau, de toute façon, on ne vit pas. Donc il y a un enjeu absolument majeur sur cette question-là, qui devrait être embrassé par absolument tout le monde dans la population, quel que soit d'ailleurs son bord politique.
Mais oui, en fait, souvent les gens me reprochent d'être militant. Moi, je ne milite que pour faire entendre les données de la science.
Mais être parce qu'effectivement, du coup, les choses que je dis,
elles ne sont... Alors, oui. Et puis surtout, quand vous parlez d'écologie, il y a des partis qui reprennent ces idées-là. Entre nous, dans l'État, quand on fait l'inventaire, ce n'est pas toujours complètement exact, mais qui le reprennent. Et puis d'autres, au contraire, qui s'y opposent. Et donc, on me dit des fois « escrologue ». C'est une des insultes qu'on reçoit de temps à autre. J'ai même eu un coup de fil l'autre jour d'un type là qui m'a appelé pour m'insulter, je sais pas comment il avait mon téléphone, en disant que j'étais un fléau pour la France. Alors, ouais. C'est compliqué effectivement, parce que le débat s'est polarisé. Et c'est con parce que pendant qu'il se polarise, nous on est en train de perdre des points. Les points de vie, c'est les espèces, c'est leur diversité génétique. On est en train de perdre des points de vie, et quelque part... ouais. Moi, je caresse l'espoir que la prochaine génération saura transcender ça, et mon espoir tourne autour de la chose suivante, la biodiversité est un outil. Deux exemples. L'agroécologie, eh ben dans certains cas, ça permet de produire 30% de biomasse en plus. Bon, quand vous faites du céréales bio, c'est 30% de céréales en moins, ok, mais des cultures mélangées, c'est 30% de céréales en plus. Autre exemple, la réserve de pêche des Calanques. C'est une réserve où on ne pêche pas. Puis on ne peut pas chaluter parce qu'au fond, il y a des posidonies. Donc, c'est une des rares réserves où on n'a pas le droit d'aller chaluter. Parce que oui, dans les réserves, on peut chaluter, figurez-vous, en France. Dans les réserves marines.
Dans les réserves protégées.
Ce ne sont pas des réserves. Oui. Bon. Puis en plus, quand on chalute, c'est très mauvais pour le climat parce que les mélanges d'eau obtenus font que vous déstockez du carbone. Bon. Bref, je reviens à mon histoire. La pêche, elle a remonté autour. Pourquoi ? Parce que les poissons qui prolifèrent là, les stocks de poissons pêchables sont multipliés par 3. Quand ils sont à l'étroit dans la réserve des Calanques, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent. La pêche a remonté autour de la réserve des Calanques. Il n'y a pas d'hiatus. Alors, il y a des fois, il y a des hiatus, effectivement, entre la préservation de la biodiversité et l'action humaine. Mais il y a des fois où il n'y a pas d'hiatus. Pourquoi on n'opère pas ça en priorité?
Juste parce que je vous ai entendu dire, le chalutage, c'est bon pour le climat. Je vous ai mal...
Ah non, c'est pas bon pour le climat.
Ah, c'est
non.
Pas bon pour le climat, d'accord.
Ça pose aussi un problème de déstockage de CO2.
Oui, d'accord.
Donc, okay. C'est en plus, c'est merdique climatiquement.
D'accord, j'ai eu peur d'avoir mal compris.
Non,
mais
non,
d'accord,
non, c'est pas, c'est bon.
On est raccord.
Non, c'est bon pour rien. Même pas pour les poissons.
Surtout quand c'est en quantité absolument gigantesque, ouais, et sur des kilomètres.
Fou,
ouais. Voilà. De la biodiversité comme un humanisme. On va parler agriculture dans un instant. C'est toujours d'actualité de toute façon. Il y a énormément de choses. Vous êtes exprimé récemment sur la loi Duplon. Marc-André Sellos, on en dira un petit mot dans un instant. Vous êtes notre invité et votre ouvrage sort aux éditions du Seuil.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
La forêt de Fontainebleau, c'est un sanctuaire, c'est une relique. C'est pourquoi Fontainebleau est aussi une forêt extraordinaire qui présente véritablement des qualités scientifiquement étonnantes. Cette autoroute à travers les Trois Pignons, elle ampute, elle coupe le massif de Fontainebleau en deux. C'est un coup de sabre à travers la forêt de Fontainebleau. C'est ce qu'on ne comprend pas.
Voilà, il s'appelle Roger Haim en 1962. La déforestation dont il nous en parle, cette voix d'un grand botaniste français spécialisé en mycologie, en phytopathologie, Marc-André Sellos. Il a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle de 51 à 65. C'est quelqu'un qui a compté pour vous ou pas?
Alors, moi j'ai lu ses travaux sur les termites champignonistes, sur les champignons hallucinogènes, c'est un très très grand mycologue, membre de l'Institut, un grand résistant déporté, et je découvre en fait récemment ses travaux comme environnementaliste. Il a préfacé notamment l'ouvrage de Rachel Carson dans sa traduction française, et il écrit ceci. Parce que des fois on me dit, oui, maintenant les professeurs du muséum deviennent des militants et des... Non, il y a une grande tradition, notamment parmi les mycologues, si j'ose seulement me comparer à ce grand homme. Il écrit, on arrête les gangsters, on tire sur les auteurs des hold-up, on guillotine les assassins, on fusille les despotes. Ou prétendu-t-elle. Mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences?
Ah oui,
c'est fort,
va,
hein.
Il ne va pas que le dos de la cuillère.
Et donc, moi, je pense aujourd'hui, en tant que professeur du muséum, ici incarner une longue suite historique d'avertissements à la société. Nous sommes au service de la société et, quelque part, on dit ce qui est possible. Je parle d'agroécologie, ouais. Et on dit ce qui est impossible.
Mais
les foutaises au niveau des pesticides, par exemple, c'est pas possible.
Vous, voilà. Vous partagez ce qu'il dit? Il faudrait mettre en prison ceux qui font de l'épandage de pesticides?
Non, mais ceux qui produisent des pesticides et des données qui poussent à continuer, ou des données ou des textes de loi qui continuent à les utiliser alors qu'on sait que ça abîme des gens, oui. Aujourd'hui, les PFAS vont nous entraîner des frais de santé. Alors là, c'est l'industrie. Hein, parce que je veux pas faire que parler d'agriculture. Les PFAS, on estime qu'en Europe, ça va être entre 50 et 80 milliards d'euros de frais de santé par an à terme, les fameux polluants éternels.
Et on commence
à un moment,
le découvrir
faut quelqu'un
seulement.
Paye. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il y a des responsabilités. Quand des industriels ont des données qui montrent la toxicité, des PFAS, par exemple, ou quand on sait que ExxonMobil, par exemple, avait en 1970 des prédictions climatiques que la communauté scientifique n'a eu qu'en 2000, alors qu'en 2000, justement, le président d'ExxonMobil a dit le changement climatique, c'est pas très certain encore. Là, il y a effectivement des baffes qui se perdent et des emprisonnements qui se perdent. Maintenant, je ne fustige pas les pauvres gens. Les pauvres gens, c'est les consommateurs comme vous et moi, c'est les agriculteurs qui finalement utilisent un système. Mais à un moment, il y en a qui ont la connaissance du danger et qui font l'opposé de ce qu'il faudrait faire.
Nos dirigeants politiques, certains dirigeants politiques, par exemple.
Oui, mais il y aura des procès un jour, c'est évident.
Le mois dernier,
si nos sociétés tiennent.
Le mois dernier, dans les colonnes du Monde, Marc-André Sellos, vous déclariez dans une tribune au sujet de la loi Duplon qu'elle était une loi passéiste, ignorante de l'évolution technique et des coûts financiers et humains colossaux. Cette loi voudrait, on peut le redire, réautoriser l'acétamipride, donc ce dangereux insecticide pour la santé et l'environnement. La disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais ça n'a pas découragé le sénateur Laurent Duplon, qui a déposé le 2 février une nouvelle proposition de loi pour réintroduire absolument ce pesticide interdit en France depuis 2020. On est complètement à côté de la plaque là-dessus ou pas?
Oui, alors pour moi, l'acétamipride, plus ça va, plus je suis sûr que c'est un chiffon rouge pour que les gens regardent dans cette direction et pas le reste. Notamment dans la loi Duplon, il y avait des autorisations facilitées pour les bassines, il y avait
des
autorisations facilitées pour les élevages qui, en fait, dénaturent des écosystèmes. Et alors, justement, quand vous dénaturez des écosystèmes, c'est quoi? C'est des marées vertes qui sont toxiques pour les riverains, c'est du potentiel touristique, parce que la biodiversité fait des paysages et elle fait du tourisme, c'est du potentiel touristique qui s'écroule, c'est de la mytiliculture ou de l'ostréiculture qui s'effondre, c'est de la valeur qui se perd, par ailleurs. Hein. Et puis, il y avait aussi cette idée de ne pas interdire les pesticides si on n'avait pas d'alternative. Donc, il y a déjà des dispositions toxiques qui sont passées dans la loi, un peu à l'insu de tout le monde, et je pense que l'acétamipride est un chiffon rouge. Et alors, l'agiter, l'acétamipride, alors que, premièrement, l'an dernier, en l'absence d'acétamipride, on a eu la cinquième meilleure record de récolte de tous les temps de betteraves sucrières. Vous tenez ? Qu'on a des alternatives agroécologiques, basées notamment sur planter de l'orge qui est un répulsif et utiliser deux pesticides autorisés. Là, vous réduisez de 87% la population de pucerons contre 50% avec l'acétamipride. Ça marche mieux. C'est peut-être un peu plus cher, mais ça marche mieux. Et puis, ce n'est pas dangereux pour l'environnement, parce que l'acétamipride, ça tue les insectes pollinisateurs. Et ça, c'est des choses qui font de la valeur. Je le répète, les insectes pollinisateurs, aujourd'hui, selon les estimations, 30 à 60% des écosystèmes agricoles sont limités en pollinisateurs. Ça veut dire qu'en Bourgogne, c'est les travaux de Marie-Charlotte Hanstedt à l'université de Dijon, vous pouvez élever des osmies, alors maintenant, il faut les payer, qui sont des pollinisateurs du cassissier. Vous pouvez augmenter votre production de 1,2 à 4 fois. C'est pas la peine de mettre plus de pesticides ou de mettre plus d'engrais, c'est limité en pollinisateurs.
Et là-bas, donc, justement, les insectes, les populations d'insectes ont chuté drastiquement, hein, vous le rappelez aussi, les chiffres sont monstrueux là-dessus.
Dans l'exemple que je donne, pour les pollinisateurs visiteurs des cassissiers, en 37 ans, c'est 98% de baisse. Donc effectivement, on est limité en pollinisateurs.
Ouais. Et le coût de la santé humaine, parce que vous en parliez dans cette tribune du Monde, justement, Marc-André Sellos, il est aussi stratosphérique.
On crée une dette terrible. Regardez, le fonds d'indemnisation des pesticides, qui est un dispositif d'État qui revient à dire que les pesticides sont dangereux, n'est-ce pas ? Les demandes ont augmenté de 44% l'an dernier. Est-ce qu'on aura vraiment les moyens de payer les conséquences sanitaires et environnementales ? Je ne sais pas. Alors même que le sénateur Duplomb nous dit l'agroécologie, sic, personne ne sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. C'est des façons, non pas de supprimer les pesticides, parce qu'on ne peut pas produire sans pesticides, même le bio on utilise, mais c'est de choisir mieux ces pesticides et d'en utiliser un moins en mettant en premier plan, des méthodes basées sur la biodiversité, et donc qui la protègent, il n'y a plus de hiatus entre produire et préserver, comme des haies qui réduisent de 80% la propagation des maladies, parce qu'il y a des chauves-souris, parce qu'il y a des oiseaux qui mangent des insectes, parce qu'il y a un obstacle physique. De mettre des cultures mélangées, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça réduit d'une bonne quarantaine de pourcents la propagation des maladies. À l'intérieur de chaque culture, mettre un mélange de variétés qui ont les mêmes propriétés techniques pour l'agro-industrie, mais qui par contre, et ça c'est important, n'ont pas les mêmes propriétés de résistance. Du coup, les maladies se transmettent moins bien au sein même de la population. Aujourd'hui, en nos champs sont monovariétaux. Tous les individus sont identiques. Si un parasite peut en manger un, c'est la promesse d'un strike. Et ça, c'est des travaux que vos impôts, Mathieu, ont payés dans les années 90. L'INRAE de Versailles a travaillé sur les mélanges de variétés pour les céréales et montre très bien qu'on peut réduire la propagation des maladies, donc l'utilisation des pesticides.
Mais quand on a un sénateur comme ça qui s'entête, hein, alors qu'il y a eu même plus de 2 millions de signatures autour d'une pétition, qui effectivement était un petit peu axée autour de l'acétamipride, mais il n'y avait pas que ça, ça n'a pas échappé d'ailleurs à plein de gens, il y avait la question effectivement des mégabassines, des élevages, etc. Comment est-ce qu'on peut réagir aujourd'hui, puisque vous dites, avant de légiférer à nouveau, il faut prendre le temps d'un échange collectif et apaisé autour de l'agriculture. Alors là, on n'y est pas du tout, on a l'impression que le débat il est confisqué même sur ces questions.
Vous voyez, les citoyens s'indignent sur l'acétamipride, mais en même temps, ils ne s'indignent pas que 20% des agriculteurs sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a besoin de se réunir et de voir l'intégrité de tous les problèmes, le problème de revenus agricoles, les problèmes de législation et de clauses miroirs aux frontières. Enfin, c'est un problème complexe, mais il ne faut pas se précipiter dans une direction. Et surtout, il ne faut pas incarner ce précepte de Rousseau qui disait que les ignorants imaginent le possible à partir de l'existant. La science est là pour imaginer l'inimaginable et le mettre en pratique, et quelque part l'agriculture de demain, elle ne sera pas comme celle d'hier.
Oui, mais la science aussi est remise en cause par certains de nos dirigeants politiques aujourd'hui.
Mais c'est l'avenir qu'ils
remettent. Les escroques, c'est vous, Marc-André Sellos.
Vous voulez qu'on parle d'escroquerie ? Le ministère de l'Agriculture a procédé en juillet dernier par décret à la mise sous contrôle de l'ANSES. C'était une des dispositions de la loi Duplomb. Ça a été retiré de la loi Duplomb et ça a été réalisé par le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un contrôle de la profession agricole sur l'ANSES. C'est complètement aberrant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que le politique a perdu pied. Je m'explique, je vous cite ce qu'on a signé à Kunming-Montréal, cible 7. Réduire au moins de moitié les risques globaux liés aux pesticides et aux produits chimiques particulièrement dangereux, notamment grâce à des mesures intégrées de contrôle des ravageurs sur la base de données scientifiques en tenant compte des questions sécuritaires et de moyens d'existence. Eh bien, quand je vois Annie Genevard travailler, je suis désolé. Je ne vois pas ça. Aujourd'hui, on a des politiques qui sont capables de faire tout n'importe quoi. Ils ne gèrent plus une politique homogène. Ils disent oui, différemment, à différentes choses, au gré des flots, ils sont devenus planctoniques. Et ça, c'est inquiétant, hein, parce qu'il y a une perte de contrôle démocratique derrière ça.
Allez, on passe aux questions des auditrices et auditeurs. Piotr nous écrit ce petit message pour vous. Marc-André Sellos, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Je ne sais plus qui avait proposé cette formule, en tout cas il la cite. J'ai rien contre les jardiniers, mais juste dans leur jardin, dit-il.
Il a peut-être raison, mais la personne à qui il parle n'est pas un spécialiste de politique ou d'économie. Moi, je suis à titre personnel un humaniste. Oui, enfin, et à titre professionnel...
Vous ne vous privez pas de parler de politique, quand même, vous venez de le faire il y a deux secondes.
Oui, mais étant citoyen, j'ai le droit d'en parler. Hein. Simplement, je ne suis pas un professionnel et donc je ne sais pas aujourd'hui s'il faut une révolution, une lutte des classes généralisée. Ou... Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, souvent, les victimes des problèmes écologiques ne sont pas les CSP les plus aisés. Ça, j'ai bien remarqué. Mais voilà, j'ai du mal, moi, à parler de politique. J'aurais vraiment
Ça ne donne pas cette impression-là, mais bon...
Non, mais de politique au sens de quel est le scénario de sortie de crise? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la révolution? Est-ce qu'il faut qu'on soit réformiste? Moi, je suis réformiste, dans l'âme. Je n'aime pas les révolutions parce que je vois les morts. Et moi, j'aime l'humain. Donc, voilà. Mais je n'ai pas d'assurance là-dessus. Par contre, sur l'acétamipride, par contre, sur l'agroécologie, par contre, sur les fonctions des haies, j'ai plus que des certitudes, j'ai des preuves.
Christine nous dit « Le greenwashing, c'est une réalité. Juriste en grande entreprise en retraite depuis le 1er juillet, je peux confirmer que si nous juristes sommes comme... sommes convaincus qu'il faille améliorer les choses, la réalité pour l'entreprise est d'éviter les amendes et de faire de la publicité envers ses actions environnementales pour faire venir plus de clients et augmenter son chiffre d'affaires. C'est hélas la seule vraie réalité, nous dit-elle. »
Quand on parlait d'Air France au début, j'ai bien dit, les entreprises sont des mélanges de gens qui, pour certains, veulent aller vers des solutions et pour d'autres pas. Donc, je suis tout à fait conscient que le lobbying existe. Et par exemple, si on ne développe pas plus les mélanges de céréales, les mélanges variétaux, c'est qu'en fait, les mêmes boîtes qui vendent les graines sont celles qui vendent les pesticides. Donc, vous n'allez pas vendre des graines qui démontent le département d'à côté. Donc, il y a effectivement des problèmes. Je ne suis pas naïf. Hein.
Gaëlle nous dit, elle vous demande, l'homme est-il une espèce invasive?
Oui. La définition d'une espèce invasive, c'est une espèce qui prolifère et s'étend en remplaçant ou en bouleversant les espèces locales, donc oui, sauf que c'est une espèce invasive et intelligente. Et ça devrait permettre de faire des invasions raisonnées.
On va terminer avec la question de Patrice. Il nous parle du botaniste Francis Allais qui avait le projet de former un corridor forestier européen. Vous connaissez par cœur ce projet, Marc-André Sellos. Après son décès, est-ce qu'il y a des personnes, demande-t-il, de bonne volonté pour reprendre ce projet? Est-ce que ça avait un sens aussi?
Mais l'association Francis Allais pour la forêt primaire existe toujours. Elle peut recevoir vos dons. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça peut faire un patrimoine touristique pour une région. Ça peut faire un patrimoine pédagogique pour les jeunes. Et non seulement ça existe toujours, ce projet de forêt transfrontalière, mais en plus, je pense qu'on pourrait l'appeler forêt Francis Allais, parce que Francis nous manque tous et nous a tous élevés dans notre conscience du végétal.
Merci Marc-André Sellos. Ça s'appelle « La biodiversité comme un humanisme ». Vous signez ce petit ouvrage percutant aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier, Tilaï Ravu à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.